d'exploration, et pas une réunion de décision. Voilà, de croiser différentes expériences sur le sujet. C'est le groupe qui décidera le lendemain de la manière dont il veut avancer sur cette thématique.
Très bien. Voilà, mais ça ne m'empêche pas, de, par politesse, d'envoyer un mail pour me présenter au notaire avant, bien sûr.
Ouais.
Tant que je le ferai, c'est normal, ça, c'est la moindre des choses.
Mm-hmm.
Voilà, très bien. Donc, je vous écoute déjà tous pour m'expliquer vos souhaits, c'est ça qui compte, bien entendu. C'est votre habitat qui est dont on discute.
Alors, je vais laisser Jean-René ou... ou Eric prendre la parole.
Moi je viens prendre la parole, Jean-René. Donc on arrive au moment où il faut faire une rédaction du règlement de copropriété. Et la problématique qui nous est arrivée, c'est qu'on a à la fois des parties communes et à la fois des parties mutualisées. Et on voulait savoir comment, à travers un règlement de copropriété, on pouvait éventuellement, ou est-ce qu'il y a des formules pour distinguer ces deux types de parties communes, parce que les parties communes sont réglementées d'une certaine manière, et on voulait, nous, pouvoir gérer nos parties mutualisées plus dans un esprit participatif. Sachant que actuellement on avait parlé de faire un 18e lot pour distinguer les parties mutualisées, or pour le cédant, celui qui va vendre, qui est donc un bailleur social, il ne pourra pas vendre à une SCICO, donc chacun sera propriétaire de ses parts de parties mutualisées.
Oui,
voilà,
je comprends. Ben, oui. Pour le bailleur social, oui. Il ne peut pas vendre à une société. C'est la question, oui. Et donc, il faut effectivement vendre, oui. Et donc, vous serez, en fait, co-détenteur, probablement, sous quel mode, en plus, en indivision, plutôt, du 18e lot, c'est ça?
Non, on sera, a priori, oui, enfin, on a une quote-part d'affecté par appartement sur une... Une clé de répartition qu'on a établie, que accepte quand la mère, donc on aura un appartement qui sera affecté pour les uns avec, je sais pas, disons, 9% des parties mutualisées, d'autres 12%, voilà. Mais je sais pas comment on va articuler le notaire par rapport à tout ça.
En fait, ce que vous avez comme idée, c'est que votre lot, 18e lot de parties mutualisées, comme vous dites, vous allez me décrire ces parties mutualisées d'ailleurs, hein, mais bon...
C'est pas compliqué, c'est facile, c'est identifié. Alors, les parties mutualisées, c'est une grande salle commune, et ça c'est une chambre d'amis, un atelier, une partie buanderie, et séchage, et puis, est-ce que j'oublie quelque chose, Eric?
Oui, des stockages. Stockage mutualisé, et puis la salle de bain attenante à la chambre d'amis. Ça fait 185 mètres carrés en tout.
Oui. Oh oui, effectivement. Ouais, c'est du costaud. Effectivement. Effectivement, 185 mètres carrés, c'est pas mal. Eh bien, je vous écoute.
Oui, alors en surface habitable, on a 1067 mètres carrés, surface habitable des appartements, et en locaux communs, cage d'escalier, coursives, enfin ces choses-là, on est à 60 mètres carrés, 82 pour être précis. Voilà l'état des lieux. Et donc l'idée principale, c'est ce 18e lot. On est donc 17 foyers, et puis le 18e lot serait donc constitué des parties communes. Notre question, c'est comment le gérer à travers le règlement de copropriété, quel type de calcul on pourrait faire pour ne pas tomber dans le calcul classique des tantièmes, mais plutôt le gérer en tant qu'habitant participatif.
Bien, alors voilà. C'est bien qu'on se parle maintenant, hein. Parce que pour être très clair, je vais très bref. C'est bien la loi de 65. Ça va, je n'ai pas besoin de faire un rappel sur l'article 43 de cette loi 65, sur les articles 8, 9, ça va, sur les articles 5, 6, 8, 9 et 43 de la loi 65, tout va bien ? Tout le monde voit de quoi je veux parler
Non, là pas du tout, non. Enfin, pour ma part, non.
Voilà. Bon, très bien. Donc, comme vous savez, dès lors qu'on est en copropriété, le régime de la copropriété s'applique. C'est la loi du 10 juillet 1965. Dans son article 43, cette loi du 10 juillet 1965 explique que certains de ces articles sont d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire, les articles d'ordre public ? C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez mettre dans votre règlement de copropriété qui serait contraire aux articles dits d'ordre public de la loi de 1965, que vous mettrez donc contraire à ces articles en matière d'organisation, en matière de charges, quoi que ce soit, ces clauses de règlement de copropriété seront des réputées non écrites. Réputées non écrites, ça veut dire qu'on fait comme si elles n'avaient jamais existé. Si en matière de charges ou en matière de droit de vote, on fait quelque chose de réputé non écrit, ça a des conséquences spectaculaires ensuite pour la vie de la copropriété derrière. Voilà. Donc la responsabilité du notaire est engagée en cas de clause réputée non écrite. Et c'est pour ça que très souvent les règlements de copropriété sont très classiques dans leur facture. Mmh. C'est-à-dire qu'on se borne, pour ne pas faire de bêtises, à reprendre les clauses d'ordre public de la loi de 65, comme ça on est sûr de ne pas mettre de clauses réputées non écrites dedans. Surtout sur tout ce qui concerne les charges ou les droits de vote. Voilà, ça c'est l'article 43, ce fameux article 43. Ensuite, dans la loi de 65, il y a des articles qui vous expliquent qu'est-ce qu'une partie privative, qu'est-ce qu'une partie commune.
Oui.
Les articles. Oui, c'est bon, je ne vais pas trop vite.
Mais nous, on est dans la troisième catégorie, c'est le parti mutualisé, qu'on voudrait différencier des parties communes.
Très bien. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme vous savez, hein, j'interviens pas, je ne vous vends rien, je ne vous fais payer rien, etc. Mon but n'est pas du tout de vendre une solution. Voilà, moi, mes amis, tout le monde sait qui ils sont, ce sont les unions coopératives de services, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec votre projet, et donc moi, quel que soit le choix que vous ferez, du moment que ce choix est adapté à vos souhaits, c'est ce qu'il y a de formidable pour moi, et donc vous choisirez comme vous voudrez. Maintenant, moi, mon souhait, c'est que dès lors que vous souhaitez discuter avec moi avant vos choix, je ferai mon article sur le sujet qui m'intéresse, voilà, j'en ai parlé à mon éditeur, je déposerai mon article le début août 2018, hein, cet article-là sur l'histoire de l'eau participative, le concept inventé par des promoteurs immobiliers coopératifs, donc la fameuse l'eau coopérative, l'eau participative, un peu ce que vous voulez faire vous, avec vos parties que vous appelez mutualisées pour se mettre dans un lot spécifique. Ça, c'est après ça, je ne me trompe pas. Donc ça, c'est très bien, tout ça, mais il y a une chose qui est claire, c'est que c'est pas moi qui ai fait la loi de 65,
voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque celui qui a fait la loi de 65, Pierre Capoulade, voilà, on a des relations qui sont ce qu'elles sont, parfois un peu aigre-douce, on va dire. Donc voilà, donc je n'ai pas du tout de mal à critiquer la loi de 65 si nécessaire. Maintenant, elle est là. Donc je suis obligé de vous dire ce qu'il y a dedans. Donc dans la loi de 65, il n'y a que deux solutions, pas trois. Mais il y a soit des parties privatives, soit des parties communes. Ah, c'est clair, c'est pas moi, c'est pas, mon but n'est pas de vous embêter, mon but n'est pas d'être désagréable ou quoi que ce soit. Je ne fais que lire ce qu'il y a dans la loi. Ensuite, je rappelle aussi que votre notaire sera tenu de vous lire aussi ce qu'il y a dans la loi. Et après, il dira ce qu'il voudra, mais si vous commencez à lui dire, ah, mais on veut des parties mutualisées qui soient un troisième type de partie par rapport aux articles de la loi, il vous dira, ben, vous savez que dans l'article 43 de la loi 65, c'est des articles 6 à 37, 41.1 et A 42 et 36 qui sont d'ordre public. Ça veut dire que, ensuite on va regarder qu'est-ce que ça veut dire en termes, ça veut dire que l'article 8, par exemple sur le règlement de copropriété, il est d'ordre public. Ça veut dire que c'est les articles de l'article 10 sur les charges, il est d'ordre public. Mais il y a des articles qui vous intéressent qui ne sont pas d'ordre public. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément
comme le 6 par exemple
intéressant pour vous. Comment?
Comme l'article 6. Pardon.
L'article 6 est d'ordre public. Il est l'article 6. Mais je vais vous dire un article qui n'est pas d'ordre public et qui vous concerne. Le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot, est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des toutes valeurs des dites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. Cet article-là, cet article 5, vous pouvez y déroger. Il va de soi que quand vous y dérogerez, le notaire sera très surpris. Mais voilà. Et deuxièmement, l'article 4 qui définit les parties communes n'est pas d'ordre public. L'article 3 qui définit comme par commune tout ce qui est gros œuvres, etc., n'est pas d'ordre public. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez jouer beaucoup sur la frontière entre les parties privatives et les parties communes. Ça, c'est très vrai. Mais de là à dire que tout à coup, les parties, il y a une troisième type de parties qui serait des parties mutualisées, là, vous prenez un risque, car il y a des références dans les deux articles d'ordre public aux parties privatives et aux parties communes. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que pourquoi je vous dis ça, l'article 10 qui est d'ordre public et qui définit les charges fait directement référence à l'entretien et à l'administration des parties communes. Voilà. Moi, quand vous me dites partie mutualisée, très bien, le juge, lui, si jamais il a réfléchi, ou même un jour ou l'autre, l'habitant qui posera des questions parce qu'il ne sera pas forcément 100% d'accord avec la dynamique collective ou quoi que ce soit, ça peut arriver, ça. Bon, celui qui posera des questions, il dira, mais partie mutualisée, c'est quoi? Bon, ce sont des parties privatives d'un lot qui est possédé en commun par le syndicat de copropriétaires d'immeuble. Et c'est possible. C'est possible. Vous m'entendez, hein?
Oui, on écoute attentivement.
Soit ce sont des parties communes avec des usages particuliers que vous affectez. C'est toujours possible. Je rappelle, et c'est bien pour ça que la loi est comme elle est, et que jusqu'à l'article 5, ce n'est pas d'ordre public. De tout ce qui n'est pas d'ordre public jusqu'à l'article 5, c'est exactement ça qui permet de faire quelque chose de très célèbre en copropriété, qui est la partie commune à usage parfois spécifique, c'est-à-dire ce sont des parties communes dites spécifiques, ou alors à usage exclusif. C'est-à-dire qu'on peut même affecter une partie commune à l'usage exclusif d'un copropriétaire. C'est parfaitement envisageable. Voilà. Tout ça, c'est donc vous voyez que ça va très loin, mais ça offre une très grande liberté. Et ça, ça relève du contrat. C'est-à-dire du contrat que vous allez passer. Je rappelle que le règlement de copropriété est un contrat. Il a valeur contractuelle. Voilà. Vous avez donc deux points qu'il y a bien à comprendre. D'un côté, vous avez le contrat que vous allez passer et vous avez des souhaits par rapport à ce contrat, ça se voit. Et de l'autre côté, vous avez des articles de la loi qui sont d'ordre public. Voilà. Et le problème de votre notaire, c'est de veiller à ce que le contrat que vous allez passer, et qui sera très spécifique du fait de la nature ambitieuse de l'habitat participatif, que ce contrat cadre avec les règles de l'ordre public. Parce que sinon, si un jour il y a des problèmes, eh bien, quelqu'un peut très bien revenir vers le notaire en disant « Mais pourquoi vous avez écrit ça ? Pourquoi vous avez écrit cette clause réputée non écrite ?» Et vous avez engagé votre responsabilité en le faisant. Ah, c'est simple. Et donc, c'est pour ça que, sur certaines choses, quand vous me dites, par exemple, « Ah, mais il y a trois types de parties, partie privative, partie commune et partie mutualisée, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les parties mutualisées », quand vous dites ça, texto, brut de décoffrage à votre notaire, je peux concevoir qu'il est, peut-être qu'il sera très poli, mais qu'il aura des interrogations. Ah, très clairement. Et j'aurais, si j'étais à sa place, j'aurais les mêmes, voilà. Il va de soi que je ne suis pas là pour faire la police. Votre notaire fera ce qu'il veut, bien entendu. Je n'ai aucune instruction à lui donner, aucun avertissement à lui donner, etc. Il est grand, il fait ce qu'il veut. Mais il faudra bien comprendre que s'il a des réactions étonnées, ce ne sera pas du tout surprenant. Parce que 185 mètres carrés en plus. 185 mètres carrés, vous me parlez de commun à 61 mètres carrés environ. Oui. 185 mètres carrés. Pour 67 mètres carrés de partie privative, alors j'ai 17 lots en plus qui divisaient. Mais ça veut dire que les 185 mètres carrés en question ont un rôle crucial pour, dans la dynamique du groupe, que la nature même du projet immobilier que vous êtes en train de réaliser. Donc c'est vraiment très très important, ce fameux 18e lot. Semble-t-il dans votre projet, c'est la façon dont vous gérerez ce lot qui déterminera si vous resterez dans une démarche citoyenne, comme on dit la loi. Hein. Je ne fais que lire la loi sur... Là, pour le coup, c'est le code de la construction et de l'habitation, sur la définition de l'habitat participatif. Donc, est-ce que vous resterez dans une démarche citoyenne pour gérer votre habitat en commun? Ou est-ce que vous tomberez dans une banalisation en copropriété? Et je suis clair, j'ai été syndic coopératif moi-même, donc je ne suis pas du tout à vous dire que la copropriété fait mal ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je dis. Mais propriété, si on ne s'y prépare pas et si on reste dans les habitudes normales, ça devient de la copropriété classique. Avec un syndic classique qui soit bénévole ou professionnel, a des pouvoirs très importants et des copropriétaires qui sont de plus en plus passifs. C'est normal parce que c'est le mode de règlement logique dans la loi, même si elle offre une autre possibilité qui existe. Donc c'est pas, je dis pas la copropriété c'est mal et c'est jamais participatif, c'est pas vrai. Il peut y avoir une copropriété participative, mais là il faut vraiment avoir très bien réfléchi. Voilà. Et donc, dernier point que je vais oser me permettre de vous poser la question. Dans votre tête, est-ce que la dynamique collective doit perdurer longtemps après la construction?
Ah ben, en principe, c'est le but, oui.
C'est le but. Très bien. Voilà. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un élément qui est très important dans la loi de 65 sur la copropriété, qui est dans l'article 8. Je ne vous cacherai pas que j'ai les articles sous les yeux, là, en se parlant, hein, pour pas dire n'importe quoi. Dans l'article 8.1, un règlement conventionnel de copropriété inclut ou non l'état descriptif de division, et on va en parler, l'état descriptif de division détermine la destination des parties, tant privative que commune. Vous voyez, hein, c'est pas moi qui rêve, ainsi que les conditions de leur jouissance. Également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle que, qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa destination. Situation. Pardon. Bon, alors, je vais essayer de traduire. Est-ce que cet article vous paraît clair ou est-ce qu'il vous paraît un peu confus? Et s'il vous paraît un peu confus, je vais me permettre de l'éclairer brièvement.
Oui, enfin moi je dirais tout ce qui est juridique, on va pas nous les futurs habitants se lancer dans une rédaction, c'est pas notre métier, notre fonction. Par contre, ce qui nous intéresse, je dirais, c'est quel degré de liberté on a pour parler de cet usage spécifique finalement de ce lot qui serait bien estampillé comme partie commune, mais avec un usage particulier, si j'ai bien compris.
Alors, Alors, voilà, pourquoi je vous disais l'article 8, c'est exactement pour répondre à ce que vous voulez. Très, très précisément. Je suis obligé de le faire parce que, d'abord, je ne pense pas que ce soit un mal de connaître le régime qui va s'appliquer à vous. Et ensuite, parce que c'est très exactement la réponse à la question que vous m'avez posée. Dans cet article 8, tel que je viens de vous lire, c'est vrai que c'est mal écrit, enfin c'est écrit juridique, c'est écrit lourd, c'est compliqué. Mais enfin, ce qu'il dit là, c'est que ce qui compte dans un règlement de copropriété, c'est la destination de l'immeuble. Dans la destination, il y a à la fois la destination des parties privatives et la destination des parties communes. D'accord, si vous me corrigez, si je vais trop vite. Non, la destination, c'est quoi? C'est l'élément central qu'il y a dans le règlement de copropriété. Ben souvent, les habitants s'y intéressent pas trop, ou voilà, ils diront c'est du droit, c'est du juridique, c'est compliqué, c'est pas notre problème. Dès lors que vous êtes en copropriété, si vous n'avez pas réfléchi à la destination de l'immeuble, tout peut être compliqué derrière. Parce que vous me dites que vous souhaitez une dynamique collective forte, durable. Bien. Pour qu'elle soit durable, il faut que la destination de l'immeuble l'impose. Et si, vous, dans la destination de l'immeuble, vous établissez, par exemple, une destination d'habitat participatif, ça aura un rôle considérable pour la pérennité et la pérennisation de votre dynamique collective. Donc, en gros, je sais que c'est compliqué, mais c'est un mot très important, la destination d'immeuble. Et si ce mot-là n'est pas bien perçu, pas un peu zappé, etc., alors vous allez sur le deuxième alinéa que je vous ai lu de l'article 8.1, c'est que, ensuite, aucune restriction à un copropriétaire ne peut être faite au-delà de la destination d'immeuble. Vous m'avez bien entendu. Ça veut dire que si vous êtes imprécis sur la destination d'immeuble et qu'un copropriétaire, lui, a une dynamique très très individualiste, ça peut toujours arriver, on ne sait jamais. Je rappelle que vous n'avez aucun pouvoir de contrôler les ventes des lots en France. Hein? Donc ça veut dire qu'en France, quand on est en copropriété, quelqu'un a le droit de vendre son lot à qui il veut. Vous aurez donc des gens qui un jour ou l'autre arriveront, que vous n'aurez pas forcément choisi. Si vous n'avez pas fait attention à la destination de l'immeuble, eh bien, tous ces gens pourront dire « Ah, mais moi, la destination ne m'interdit pas ceci ou cela », et vous serez tout surpris. Deuxième chose, un lot. Vous me parlez de ce fameux lot que vous voulez tout mettre dans un lot, le 18e lot, qui serait possédé par le syndicat de copropriétaires. Mais semble-t-il, hein, c'est à peu près ce qui est tout à fait légal et faisable, d'ailleurs. C'est clairement l'état d'esprit, me semble-t-il. Bien. C'est parfaitement légal, hein, ce que vous envisagez. Mais n'oubliez pas qu'en copropriété, en France, tout lot, ça c'est encore dans la loi, comprend des parcs. partie clévétive et une quote-part de partie commune. Vous m'avez bien entendu.
Oui.
Tout nous, on prend des quotes-parts de partie commune et une partie privative. Ça veut dire que votre fameux lot-là, les parties privatives, ce sont de ce lot-là, même si vous le possédez tous en commun, hein, les parties privatives de ce lot-là seront les parties mutualisées. D'accord ?
Mm-hmm.
Et ensuite, les parties communes, c'est que même ce lot-là sera affecté d'une quote-part des parties communes, c'est-à-dire des communs de 60 mètres carrés, 82 dont vous parlez. Vous voyez ? C'est la loi. Et donc, on sera obligé de faire comme ça. C'est possible, hein ? Il n'y a aucun, pour moi, hein, il n'y a rien dans la loi qui s'oppose au calcul que vous souhaitez faire. Il y a juste un problème majeur en termes de dynamique collective. Ce lot-là, avec ses 185 mètres carrés, peut être un jour vendu. Il plaire à une personne. Il deviendra un lot privatif à 7 personnes. D'accord ?
Ah ben, je ne sais pas qui peut le vendre, comme on sera tous propriétaires d'une partie.
Oui, non, c'est la majorité.
Ah, la majorité, est-ce
pas ? Non. Oui.
Alors,
la majorité évolue et peuvent changer. Et donc voilà. Et donc moi, ce qui vaut en fait, me semble intéressant, mais voilà. Et donc tant que vous n'avez pas calculé cette histoire de destination, c'est là que ça peut, à mon sens, être un peu problématique si vous voulez pérenniser votre dynamique.
Donc il faut bien s'occuper de la destination en premier.
Mmh. Oui.
Mmh. Je crois qu'il est aussi possible, malgré tout, d'avoir un article qui définit que la vente de ce lot mutuel commun se fasse à si pas à l'unanimité, à un taux de voix très élevé, non ? On peut...
Alors, donc c'est pas vous qui bougez, évidemment, dans la loi de 65, c'est pas vous qui bougez les majorités, bien entendu. Voilà, les choses sont claires, ça, ce sont que des articles. L'article 24, l'article 25, l'article 26, ce sont que des articles d'ordre public. Voilà, les choses sont claires, donc c'est la loi qui détermine à quelle partie, à quelle majorité on peut vendre. Voilà. C'est exactement le type de clause qui serait réputé non écrite. Bien. Me semble-t-il, hein. Vous pouvez toujours me tromper, mais je ne crois pas me tromper. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une solution pour empêcher la vente, ou pour exiger l'unanimité, c'est de dire que le guide est à destination d'habitat participatif et que le lot numéro 18 est fondamental pour faire respecter cette destination. C'est toujours possible de le dire, et je rappelle que c'est exactement ce qui arrive dans les loges de concierge, dans les appartements chics, dans les immeubles chics de Paris. Dans les immeubles chics de Paris, comme la concierge a fait partie du haut standing, on n'a pas le droit de vendre la loge de la concierge, sauf à l'unanimité. Eh bien là, je vous conseille de faire pareil. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez me dire, ah non, voilà, eh bien, vous faites comme vous voulez. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, à la majorité, on pourra vendre ce lot. Et c'est la loi qui fixera la majorité. Ça veut dire que si un jour, le législateur passe à l'article 24 pour les aliénations, ce qui est bien possible, que ça lui vienne à l'esprit très vite, pour être très clair, dans une ordonnance très prochaine, par exemple, c'est tout à fait possible. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, c'est bon. Ça veut dire que la majorité des présents, même pas de tous les gens membres, hein, mais des présents, pourra vendre le fameux lot, le 18e lot, et voilà. Et donc, si vous souhaitez éviter ça, eh bien, la sagesse, c'est de dire que la destination de l'immeuble empêche la vente du lot. Parce que sans ce lot-là, qui est fondamental, avec quand même la salle commune, les ateliers, la buanderie, la chambre d'amis, etc., ce lot-là est fondamental, et à mon sens, pour une dynamique collective. Et donc, si vous n'avez pas travaillé à faire en sorte que ce lot-là reste propriété commune, eh bien, ça posera un vrai problème. Donc, à mon sens, le modèle qui est très simple, hein, très classique, très 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 classique, au plan du droit de la copropriété, il n'y a rien de plus simple que ce que vous suggérez. Le modèle que vous devez plus ou moins suivre, c'est celui exactement des loges de concierge. Voilà. C'est-à-dire que les loges de concierge dans les immeubles de haut standing, on n'a pas le droit de les vendre. Eh bien, c'est la même chose. Un lot participatif dans un immeuble à destination d'habitat participatif, il est évident qu'on n'a pas le droit de le vendre, sinon on change la destination de l'immeuble. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que, vu ce que je vous ai dit dans la loi, il est vrai que la loi permet que l'usage passe, qu'on puisse modifier la destination de l'immeuble. Si par exemple, dans l'usage, hein, au bout de 10-20 ans, le fameux lot en question de 185 mètres carrés était affecté uniquement à une seule famille ou à un seul ménage, et que ça reste comme ça et que personne ne bronche pendant des années, bien à ce moment-là, vous pourriez dire « Ah ben oui, mais la destination a changé ». Et dans ce cas-là, vous pourriez vendre à cette famille-là ce fameux lot-là. Mais a priori, sauf à ce que l'usage donc que vous en fassiez change, normalement, une fois que vous avez défini la destination d'immeuble comme l'habitat participatif et que ce lot-là est protégé par la destination, vous ne pouvez plus avoir de surprise sur ce lot-là qui devient votre lot pour toujours, enfin, qui devient le cœur de votre dynamique pour toujours. Et c'est quasiment perpétuel. Après. Sauf à ce que, unanimement, vous décidiez tous que vous en avez assez de l'habitat participatif et que vous voulez vendre le lot. Si unanimement vous décidez de le faire et changer la destination de l'immeuble, vous avez le droit de le faire, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ouais.
Ok. Est-ce que je me permets d'intervenir pour voilà, faire le point, parce que ce qui était, ce qui me semblait important de faire ce soir, c'est donc de valider le déplacement et les modalités pour la rencontre du 4. Pas forcément en fait de faire la réunion complète ensemble, hein, parce qu'il y a besoin de ce que le maximum de personnes du groupe soient présentes et informées, et notamment je dirais le président. Voilà. Donc est-ce que pour vous, Eric et Jean-René, le tour des sujets à traiter est suffisant? Est-ce qu'on peut convenir de rester là pour ce soir?
Moi j'aurais une petite question pour m'assurer si j'ai bien compris ou pas. Dans cette destination particulière des lots que nous on appelle mutualisés, est-ce qu'on pourrait différencier le calcul des charges sans passer par le calcul classique des tantièmes de copropriété? Est-ce qu'on pourrait avoir notre modèle de répartition de charges concernant ce lot particulier?
Écoutez, je vous allais me dire ce que vous, plus précisément plus tard, j'imagine ce que vous envisagez, mais j'ai des réserves
a priori
à l'article 10 de la loi de 65 sur les charges.
C'est l'article 10
et l'article 10.1. Après, vous allez m'expliquer ce que vous envisagez. Mais si ce que vous envisagez est contraire à l'ordre public, hein, vous verrez. Votre notaire aura peut-être des réserves. Et à mon avis, il aura raison de les avoir.
Oui, je pensais par exemple l'usage de la salle commune, etc. On va tous en avoir un usage, imaginons, à peu près équivalent, et on réglerait, c'est une hypothèse, on réglerait chacun un 1/17 des charges. Est-ce que ça, c'est on est hors la loi si on...
Non. Ça, c'est justement un élément très intéressant que vous dites. Et là, il faut vraiment que... Et franchement, il faut que je vérifie. Et je pense que le notaire vérifiera aussi.
Parce que c'est un élément constitutif de l'habitat participatif. C'est de définir entre nous un certain nombre de règles de vie commune sans vouloir être hors la loi. Quelle est notre marge de liberté?
Eh bien, là, ce que vous dites, là, c'est une autre question, une très belle question aussi. Je rappelle que les questions que vous posez sont passionnantes, hein, intéressantes, mais ce sont des questions d'assez haut niveau au plan juridique. Hein. Oui. Juste comme ça, je dis ça juste comme ça. Si, par exemple, on parlait d'un niveau scolaire, hein, universitaire, par exemple, c'est des niveaux Master 2. Hein. Donc voilà, c'est juste comme ça. Oui. Je dis ça, je dis rien. Là, c'est un problème entre les charges d'administration qui se règlent au tantième, oui, et les charges d'équipement qui peuvent se régler justement à l'usage. Est-ce qu'on peut qualifier la salle commune comme un élément d'équipement dont la répartition se ferait à l'usage? Mon premier mouvement serait de vous dire plutôt oui. Mon premier mouvement serait de vous dire plutôt oui. Je ne vous cache pas que je chercherai. Je regarderai avant et que je vérifierai avant d'être péremptoire. Voilà, et donc, ma première réaction est à mon souvenir des enseignants avec lesquels j'avais fait une conférence et tout, en droit de la copropriété, avaient tendance à dire la même chose. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que des enseignants ont ça, c'est pas parce que moi j'ai ça que j'ai absolument raison, bien sûr. Mais mon premier mouvement, ce serait de penser que c'est tout à fait possible ce que vous suggérez. Voilà. Mais c'est à vérifier, bien sûr, et je le vérifierai. Je sais que c'est technique et que c'est tendu. C'est-à-dire que c'est exactement le genre de choses sur laquelle il y a beaucoup de contentieux, très souvent.
Donc, a priori, le modèle standard, c'est le modèle des tantièmes.
Voilà, mais la répartition par équipement et par usage, par utilité commune, et en plus on parle de l'utilité objective, hein, et donc là c'est la répartition par l'utilité objective de l'équipement, c'est tout ce qui peut concerner les ascenseurs aussi qui peuvent être concernés par c'est tout ce droit-là, et les flopées d'arrêts que vous avez là-dessus, etc. et tout. Or le problème c'est que là, la buanderie pour moi c'est un élément d'équipement. C'est très très clair, et donc ça y ressemble énormément, ce que vous dites. C'est pour ça que c'est a priori ce que vous dites est parfaitement compréhensible. Le problème que j'ai, c'est que votre choix est de le mettre dans un 18e lot. Ça qui va me être la vraie question. J'ai compris qu'il y avait des intérêts économiques qui expliquaient votre choix. La logique aussi pourrait être de mettre tout cela en partie commune et ensuite, en tant que partie commune, de dire que ce sont des parties communes qui, là, sont liées à son constitutif d'équipement et donc qui obéissent aux critères particuliers de la répartition des charges par équipement. On pourrait imaginer ça. Mais je sais, me semble-t-il, ou peut-être que je me suis laissé dire, que vous ne souhaitez pas autre chose qu'un lot spécifique et qu'il y a des raisons à cela. Voilà, parce que, et c'est justement ce choix-là, de mettre tout dans un lot spécifique, qui pourra poser problème par rapport peut-être à votre souhait d'une répartition des charges par équipement. Voilà. C'est là que je peux être un petit peu...
Alors, sur ce point. Il n'y a pas de décision, hein, tirée sur le fait qu'il y ait ou non un 18e lot. C'était une hypothèse qu'on avait envisagée, notamment pour imaginer un financement différencié dans le temps. De certains propriétaires et pour faciliter, enfin ce qu'on pensait faciliter, des prêts de solidarité de tiers, pas seulement des membres habitants, mais éventuellement, tu vois, il y a une réflexion sur le financement possible de la SIC Oasis qui s'est constituée en fin d'année. Qui va faire des prélèvements, enfin qui va inviter les citoyens français à apporter de l'argent pendant 7 ans pour défiscaliser leurs prêts solidaires et pourraient en bénéficier des projets d'Oasis voilà, qui ont voulez pas créer ce 18e lot, de laisser tout ça dans les espaces communs, ça résout des problèmes de répartition de charges sous le vocable d'équipement, et que on peut aussi mettre en œuvre des prêts de solidarité d'une structure comme la Cicolasis, ce sera probablement le choix qui sera fait par le groupe.
Alors, pour ce qui est du prêt Cicolasis, tu connais mieux que moi cet élément. Alors, même si je veux m'y intéresser parce que je trouve que c'est intéressant, et donc voilà, rien que à titre justement des suivi de l'actualité, il est normal que je m'y intéresse, mais je pense que je connais mieux que moi les conditions et les possibilités offertes par cette SIC. Et ce sera intéressant et je l'évoquerai dans l'article que je ferai. Pour le reste, je vous dirai ça plus.
Oui, monsieur.
Mais j'ai bien compris les enjeux et donc je vais chercher plus dans le détail et voir. Mais voilà, mon premier mouvement, c'est celui que vous avez entendu, c'est-à-dire de dire que votre souhait d'une répartition des charges par équipement me semble tout à fait envisageable, a priori. Et je vais vous dire un dernier alinéa très vite. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ça veut dire que là, c'est possible de faire une égalité par lot. C'est pour la loi. Et donc, ça, c'est d'ordre public et c'est le premier alinéa d'article 10. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est tout ce qui concerne les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes. Ou alors là, c'est au tantième. Donc, il y avait bien deux systèmes. Un système au tantième et un système pour l'utilité spécifique à chaque lot. Et là, ce que vous dites, c'est que c'est tout à fait envisageable de le faire, comme vous le souhaitez, me semble-t-il. Mais c'est mon premier mouvement. Par contre, si jamais c'est un lot possédé par le syndicat de copropriétaires, il me semble que ça devient difficile parce qu'il me semble que l'administration de ce lot-là devient un élément de conservation et d'entretien et d'administration d'une partie commune. Et c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il me semble que là, vous êtes obligé de répartir au tantième les charges pour tous ces éléments du moment que ça devient un lot possédé par tous. Un lot spécifique, mais possédé par tous. Me semble-t-il, hein. Mais je vais le vérifier.
Ok. Est-ce que pour vous, monsieur Eric et Jean-René, c'est bon pour l'échange qu'on a eu ce soir?
C'est très bien, c'est fructueux.
Okay. Je vous invite donc à préparer les billets de train. Pour l'aller, c'est assez simple. Pour le retour que tu avais envisagé, Thierry, tu avais dessiné un horaire ou je sais pas en tête?
Oui, non, mais c'était très clair, hein. C'est-à-dire que c'était départ à 6h58, je crois, de Vannes, et chez vous à Caen vers 11h54,
je crois, quelques minutes avant moi, la moyenne.
Voilà, 11h et quelques, voilà. Et le départ à 17h11 de Caen pour arriver à Vannes vers 21h et quelques.
D'accord.
Donc c'était ça les horaires que j'avais vus et donc ça existait effectivement. Donc vous pouvez prendre les billets d'avance, mais après je vérifierai avec la SNCF le jour même, pour que je vois ça le jour même, ce qui roule et ce qui roule pas. Et évidemment,
si ton train de retour était annulé, enfin, j'ai eu le cas là il y a pas très longtemps, donc je me suis fait rembourser sans difficulté. Est-ce que tu pourrais envisager un retour un peu plus tard, voir si on offre l'hospitalité, prendre le premier train qui roulera, parce que le lendemain n'est pas un jour de grève, a priori.
Et un jour sans grève, hein. Le lendemain,
voilà.
Sans grève.
Voilà. Donc on pourrait envisager, est-ce que tu prennes le premier train du lendemain pour sécuriser ton retour?
Pour l'instant, je vous invite à prendre des billets.
Oui, bien sûr.
Si jamais ça marche pas, effectivement, ben, il faudrait qu'on envisage cette hypothèse.
D'accord.
Le jour même, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, mais effectivement, il faudra envisager cette hypothèse. Si on en est là, effectivement, il faudra envisager.
Ok, on procède comme ça alors. Eric, tu te charges de la chose?
D'accord, oui. Je prends les billets, je les envoie par la poste?
Vous savez qu'aussi il y a des billets qu'on peut parfois acheter par mail.
Oui, hein, ou par Internet.
Vous pouvez les envoyer par mail comme ça.
Oui, on fait comme ça.
Si vous voulez le mieux, hein, c'est à vous de voir.
Deuxième classe.
Alors par contre, il faudrait me donner votre adresse mail.
Alors, ça, je vous la fais.
Tu vas me l'envoyer, d'accord. Ok.
J'ai pas déjà fait.
Ce sera plus pratique.
J'utilise celle de. Laquelle.
Par exemple, Entimail, c'est la plus facile parce que c'est de la poste, des fois, c'est un peu lent.
Oui,
mais si ça va mieux maintenant. Hein. Mm. Donc, c'est I comme Isabelle, G comme Gérard,
oui.
T comme Claude, H comme Hector. Mm. F comme Frédéric. D'accord?
Oui.
IGCHF.
Oui.
C'est bon?
Oui, c'est bon.
Ouais. @ ntmail.com. Sur ntmail, ça s'écrit ntymail.com.
NEYMAIL.
Non, NTY.
T-Y.
T comme Thérèse. Hein.
D'accord.
Donc N comme Noémie, T comme Thérèse, Y, MAIL.com. Voilà. Donc, IGCHF@ntmail.com. Et donc là, voilà, ça, tout va bien.
NT ou TN?
NTmail.
NT. D'accord, j'avais mis l'envers.
A-I-L. NTYMAIL.
D'accord, oui. C'est noté.
Ok, nickel. Eh bien, merci à tous les trois. Bon week-end et aux quatre, a priori.
Oui, ben, puis.
Je vous envoie, ce que je vais faire, même, c'est que je vais vous envoyer un mail, puisque j'ai vos mails, messieurs.
Oui, c'est ça. Par confirmation, oui, ça serait mieux. Oui, voilà, avec le téléphone.
Allez, à très bientôt, et puis espérons que le 4, il n'y ait pas trop de problèmes.
Bon, merci pour tous ces renseignements.
À très bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
Allez, bonne soirée. Au revoir. Oui.
Il y a des choses possibles.
Oui, mais il faut évacuer.